Alexandre Poussin écrit et voyage à pied pour mieux réfléchir. Auteur de Marche avant et d'Africa Trek, Alexandre Poussin nous livre quelques réflexions sur la vie, le développement durable et la manière de respecter la Terre. On écoute Alexandre Poussin. Alexandre Poussin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous citez dans Marche avant un proverbe touareg, « Ce que l'on fait pour les autres sans les autres, c'est contre les autres ». Est-ce que cette recherche du don vous met en mouvement ?
Oui, parce que c'est le mouvement, c'est pas pour moi-même, c'est pour l'échange, c'est pour aller voir, pour aller comprendre, pour aller interagir avec le monde et en rapporter de meilleures nouvelles ou un autre regard. Donc moi, je fais mon boulot de journaliste quand je voyage, et pour aller essayer de confronter ce que j'ai appris à ce que je vois. Voilà. Donc il y a forcément un échange qui se produit.
Il y a un hiatus entre ce que vous avez appris et ce que vous voyez.
Et c'est là que la littérature se développe. C'est dans ce hiatus, évidemment. Et c'est pour ça que j'écris, sinon j'aurais rien à dire.
Vous auriez à raconter votre périple, ce qui serait déjà pas mal.
Oui, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on apporte. En plus, de nouveau, la nouvelle approche, le nouveau regard, les nouvelles conclusions. Donc voilà, c'est pour ça que je voyage. Mais il faut que ces voyages soient initiés par une question, un questionnement, une interrogation et le sentiment qu'il y a une injustice de traitement médiatique entre une réalité et le monde réel. Donc voilà, je vais vérifier. Enfin, je fais mon boulot de reporter.
Alors comment naît une vocation de marcheur ?
Moi, j'ai toujours détesté la marche. Je n'aimais pas la marche. J'ai été scout. Et dans les scouts, il y a un truc qui s'appelle le raid où on va marcher. C'était le truc que je détestais le plus. J'aimais les installations, moi, bricoler avec du bois, le froissartage, faire des assemblages avec des bois, des tentes surélevées, tout ça. Mais aller marcher 30, 90, 100 kilomètres avec un sac de 30 kilos sur le dos, le petit scout, là, en patrouille et tout, je trouvais ça épouvantable. Et en fait, c'est dans l'Himalaya que j'ai appris à marcher parce qu'on n'a pas le choix. L'Himalaya, il y a des treks. Alors là, la finalité, c'était pas la marche, c'était la montagne, la beauté, l'altitude, etc. Et très vite, je me suis rendu compte et j'ai appris que la marche instaurait un nouveau rythme, posait un nouveau regard et changeait la vue, donc changeait la vie et changeait le modus operandi et changeait la rencontre surtout. La rencontre était placée sous de bons auspices grâce à la marche.
Vous avez aussi une belle histoire familiale.
Laquelle ?
La vôtre.
Il y en a tellement. Oui, moi j'ai grandi, je suis né en Belgique. Alors je ne suis pas belge parce qu'il n'y a pas le droit de sol en Belgique. Dommage, j'aimerais bien. J'aime beaucoup les Belges, j'ai une passion pour ce peuple et sa candeur, sa gentillesse, sa fraîcheur, son côté positif. Moi j'adore les Belges, je vais tout le temps en Belgique, c'est le pays où je me sens le mieux. Mais j'ai grandi au Canada, au Québec. Et bien ça, cette affaire, là, le Québec, c'est là-bas que j'ai contracté l'amour des grands espaces, la nature, la pêche, la neige, l'hiver, tout ça. C'est une affaire, c'est sûr, si je peux pas être maintenu en cage, là, c'est parce que j'ai grandi au Québec. Ça, pour sûr, j'ai contracté le virus au Québec, dans ma petite enfance. Dans ma tendre enfance. Et puis après, je suis rentré en France. J'ai grandi en France comme un adolescent. Et la poudre d'escompète m'a pris après Sciences Po, où je trépignais d'impatience sur les bancs poussiéreux à ressasser un des bouquins écrits dans les années 60, pétri d'idéologie surannée. J'ai voulu aller coltiner tout ce bagage un peu pesant à la légèreté du monde.
En tout cas, vous n'avez pas perdu l'accent canadien. On a évoqué votre adolescence. Il y a eu quand même un drame à un moment avec un grave accident et qui a failli vous empêcher de marcher. Et moi, je me suis dit qu'évidemment, c'était pour ça que vous vous étiez lancé à corps perdu dans la gymnastique.
Alors, je faisais de la gymnastique avant. Mais effectivement, ma mère est convaincue que si je suis parti marcher, c'est parce que j'avais échappé de peu à la tétraplégie. J'ai eu le cou cassé. On m'appelait le casse-cou depuis que j'étais tout petit. Donc, il avait bien fallu que... ça devient vrai un jour, et pourtant c'était pas en faisant une acrobatie, c'était en jouant aux billes. Quoi, ça peut être très dangereux les billes. J'ai un copain, c'est la finale, j'étais le meilleur, j'étais le champion, et il y a un mouvement de foule, et il y a un gamin qui m'est tombé sur la tête, et crac, le ciel partout à 10, m'est tombé sur la tête, et effectivement je suis pas passé loin de la tétraplégie, donc j'ai eu un an d'appareillage et d'opération, tout ça à Garches. Mais à Garches, j'étais le seul bipède. Dans mon service, ils étaient tous grabataires, polio, tétra. Enfin, c'était très dur. Hein. Et j'étais le plus jeune. J'étais le seul avec mes deux jambes. Alors, j'avais un gros plâtre, des vis partout, tout ça. Mais j'étais la coqueluche, le chouchou des infirmières. Et donc, j'en garde un très bon souvenir, même si j'ai souffert le martyr. Je m'en souviens plus du martyr. On se souvient des souffrances morales, pas des souffrances physiques. On ne souffre physiquement qu'au présent. On ne peut pas dire « Ah, j'ai mal d'avoir eu mal, physiquement. » Mais en revanche, on peut dire « J'ai mal d'avoir été maltraité. » Ça, j'ai toujours mal. Les blessures morales sont éternelles. Voilà. J'ai souffert beaucoup physiquement, je le sais, mais moralement pas.
Ça vous a donné un goût de la vie. Et d'ailleurs, un goût de la vie qui a été important aussi pour votre éducation à Passy-Buzenval. Enfin, dans le livre, on le voit très fortement. Tout ça a beaucoup compté dans vos choix de vie. Et vous y avez d'ailleurs rencontré Sylvain Tesson.
Ah, je crois que la pédagogie des frères, des frères des écoles chrétiennes, bien ancrée dans les richesses de notre culture chrétienne, est magnifique et pleine de vertus. C'est là qu'on y apprenait qu'il ne fallait pas réussir dans la vie. Ce n'était pas important, mais qu'il fallait réussir sa vie. C'était des slogans, quoi, que les vacances ne devaient pas être vacantes, qu'il fallait construire sa personne et sa personnalité, c'était bien, et son caractère, c'était bien plus important que de se truffer la tête de chiffres et de données pour être un bachoteur et un premier aux examens. C'était pas du tout ça la perspective chrétienne de l'éducation. Et c'était de faire un esprit généreux, ouvert, optimiste, positif et capable de dire merci, merci d'être vivant, merci d'être là, en avoir la conscience aiguë de la chance que nous avons d'être vivant et donc pas se plaindre, quoi. Donc la culture française de la râlerie ou de la compétition, etc., elle n'est pas dans notre fond culturel. Elle vient du matérialisme, je sais pas d'où elle vient.
Peut-être des Américains, allez.
On va leur faire porter la casquette.
Et vous défendez une école non mixte. Alors ça, je me suis dit quand même, pour un jeune d'aujourd'hui, c'est un peu surprenant.
Ah oui, c'est-à-dire que j'ai découvert... Moi, tout ça, c'est fondé sur l'expérience, hein, c'est pas des grandes idées. Moi, je me suis rendu compte, parce que j'étais dans des établissements mixtes, et je me suis rendu compte du temps qu'on perdait, de l'énergie qu'on perdait, 30-40% à glousser, à regarder, à un truc qui est sorti avec machin, qui est sorti avec bidule, et les stratégies vestimentaires de drague, de bidule, et tout ça, c'était des coteries qui sont peut-être nécessaires, puisque c'est la vie réelle, et c'est ce qu'on va affronter plus tard, mais pourquoi le faire si jeune et si tôt, quand on aura toute la vie à se fréquenter et à se connaître sur des bonnes bases, plutôt que d'aller se rencontrer à 12 ou 14 ans dans les toilettes, bestialement, je ne vois pas ce que ça apporte à l'humanité. Voilà, je trouvais que les jeunes sont des papillons qui se brûlent aux ailes de l'amour trop tôt. Et la sagesse ancestrale de notre culture avait mis, pas des garde-fous, mais institué des principes comme la non-mixité à l'école pour éviter que ça se passe trop tôt. Et parce que ce sont des choses, et que toutes les morales sur Terre, en fait. Moi, c'est parce que j'ai été voir ailleurs comment ça se passait que je me dis, mais pourquoi est-ce que ça a changé chez nous? Parce que partout ailleurs, les écoles sont non mixtes, on va à l'école en uniforme et l'éducation se passe mieux. Elle est moins polluée par tout ça. Je trouve que c'est une pollution qui n'apporte rien. Alors, pas pour le collège, enfin pour le collège, oui, mais pas pour le lycée, pas pour la fac, évidemment, je ne suis pas idiot. Mais à chaque chose, à chaque âge, pardon, il y a des étapes à franchir. Et bon, alors pour le primaire, évidemment, il n'y a pas d'objection. C'est surtout pour l'âge problématique de l'adolescence. Je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie. Enfin, moi, je sais que si j'ai eu la chance d'être dans un établissement non mixte, je sais que si j'avais été dans un bahut avec des jolies filles, j'aurais rien foutu.
Bah, comme tous les garçons de 13-14 ans. Hein. Vous auriez pu être acrobate de cirque, alpiniste, skieur, mais vous vouliez devenir chirurgien.
Ben oui, parce que j'avais été réparé par un chirurgien et j'avais vécu le monde hospitalier. Donc, j'ai un respect et vraiment une admiration sans borne pour tout ce qui porte une blouse blanche. Je devrais peut-être pas, mais c'est comme ça. Les infirmières, pour moi, sont peut-être c'est le seul corps constitué pour lequel j'irai manifester dans la rue, parce que je trouve que leur travail est admirable et n'est pas reconnu à sa juste valeur. Quant au chirurgien, moi, j'étais bricoleur et je voulais retaper les gens, quoi, c'est tout. Mais comme j'étais nul en maths, j'ai jamais réussi à faire des études... enfin, la sélection est par les maths en France, malheureusement. J'étais le premier en physique, le premier en sciences nat, mais le dernier en maths. Non, à cette énigme, on a su opposer qu'un rejet, et je n'ai pas jamais pu passer en études scientifiques. Voilà.
Vous le regrettez ?
Non, parce que je ne regrette pas dans la vie. Hein. Ce livre s'appelle Marche avant, il n'est pas plein de. Il ne faut pas marche arrière, quoi. C'est juste une autre vie que j'aurais pu vivre, mais que je ne vivrai pas, et comme on ne peut pas refaire sa vie. Et on ne peut pas vivre ses vies par procuration. Non, non, c'est juste un instant T dans ma vie. Voilà ce qui s'est passé. C'est un accident, comme un autre accident. L'important, c'est de rebondir.
D'où vous vient ce besoin de défier l'interdit en jouant les montes en l'air avec Sylvain Tesson sur les façades des monuments parisiens quand vous étiez très jeune?
Ah, jusqu'à 20 ans, donc j'étais pas si jeune que ça, mais c'était pas du tout pour défier l'interdit, c'était pour le faire, pour la beauté du geste, c'était une forme d'art, hein, d'installation.
Une performance.
Ouais, une performance artistique, acrobatique. On le faisait la nuit parce que moi j'étais passionné par Brassailles, le photographe, j'aimais beaucoup ses ambiances nocturnes. On faisait la nuit pour pas se faire rattraper, parce qu'à quoi ça sert de traumatiser la maréchaussée et la doccia à fouetter que deux bourgeois qui s'amusent sur les toits. Donc c'était plus par esthétisme que par bravade et sens du défi. Donc voilà, tous les monuments de Paris y sont passés, ou presque, et on y vivait des moments synesthésiques de contemplation, de vent froid, de zinc mouillé, de petits détails secrets qu'on ne voit que du ciel, hein, qui sont destinés à Dieu, des salamandres, des inscriptions. C'est extraordinaire ce que le gothique flamboyant réserve en trésor d'architecture vu du ciel, et qu'on ne voit pas du sol, des actes gratuits faits par des compagnons du 11e, 13e siècle. Voilà, c'est toutes ces choses-là que j'aimais retrouver là-haut. Et puis l'odeur du guano de pigeon.
Vous vous rendez compte quand même que c'était exceptionnel?
Non, c'est très simple.
Bon, j'ai pas essayé, mais... donc vous avez un DEA de sciences politiques, vous avez fait Sciences Po, on l'a dit tout à l'heure. Mais alors ce qui est assez rigolo, c'est vos stages qui étaient quand même assez atypiques, genre marin pêcheur ou garçon vaché. Et pourquoi vous aviez choisi ce type de stage?
Ben pour pas aller dans une banque, ou pas aller dans un cabinet d'assurance, ou dans une sous-préfecture, quoi, c'est tout. Non, c'était parce que j'étais très intéressé par ces mondes actifs, où il y a des ministères, où il y a des politiques, et où il y a des problématiques. Et je voulais aller voir sur le terrain aussi, ça participait de toujours cette même curiosité. Antérieure à mon désir de voyage, il y avait le désir d'être ancré dans le réel. Et le pays réel, des pêcheurs et des paysans, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai fait des stages agricoles l'été, et j'ai eu toutes les peines du monde à les faire valider à Sciences Po, ou évidemment, l'été, on va faire des stages photocopie, tasse à café, dans les banques, voilà. Moi, c'était vraiment pas mon truc. Donc, j'ai découvert que la pêche n'avait pas d'avenir, mais ça, je l'ai découvert en 1992. Mes attendus et mon mémoire étaient ce qu'on voit apparaître aujourd'hui en ce moment, c'est que la mer s'épuise, que la pêche est une prédation aveugle, que c'est barbare, c'est du néolithique, C'est des techniques de prédation sauvage qu'on avait sur Terre il y a 10 000 ans, mais on a appris l'agriculture entre-temps. Et bon, il est plus que temps d'affairer tout cet argent qu'on maintient pour faire survivre une industrie qui n'a pas d'avenir. Il faut le convertir vers le développement de l'aquaculture et de la pisciculture, c'est évident. Même s'il y a des problématiques avec l'aquaculture et la pisciculture, mais c'est en y injectant beaucoup d'investissements et de cerveau et de soins et d'intérêts, qu'on réglera ces problèmes liés à la pisciculture et à l'aquaculture. En tout cas, la pêche, c'est fini. Il n'y a plus de poisson, donc c'est dommage. On aurait pu s'arrêter avant, quand même.
Vous êtes en train de me dire que je vais plus pouvoir manger de poisson demain ?
Si, vous pourrez, mais du poisson qui sera élevé comme vos poulets en batterie, comme vos vaches dans les champs, et comme les... C'est la pêche, on tire aveuglément et sans limite, c'est qu'on n'est pas capable de se limiter. Pourquoi ? Parce que si vous le pêchez pas vous-même, votre voisin va le pêcher. Donc vous allez le pêcher avant qu'il ne le pêche. Donc c'est pas possible ça de continuer comme ça. D'ailleurs, il y a plus de morue au large de Terre-Neuve, il y a plus de sardines au large de la Namibie, il y en a de moins en moins au large de la Mauritanie. Les poissons sont, la déplétion est absolue. Le thon rouge est en voie de disparition, le thon blanc, enfin tous. C'est comme ça.
Donc il faut arrêter d'être chasseur-cueilleur, en fait.
C'est exactement ça. Il faut franchir sur mer le tournant du néolithique qu'on a franchi il y a 10 000 ans sur Terre. C'est des réalités très dures à dire pour tous les gens qui pêchent. Il y aura toujours de la pêche, mais ce sera une petite pêche locale, artisanale, de cabotage. Mais la pêche industrielle devrait être interdite.
Vous sentez proche des altermondialistes ?
À l'origine, non, parce que je suis d'une génération qui les a précédés un petit peu, et j'ai trouvé un peu braillard, gesticulant, mal rasé et mal habillé. Et puis, je me suis très vite rendu compte que c'était des idéalistes, qui étaient beaucoup plus idéalistes que les braillards des années 68, qui avaient des slogans un peu puérils et qui, finalement, sont rentrés très vite dans le rang et sont devenus les plutocrates d'aujourd'hui. Quant à ceux-là, on ne les achète pas. Ce sont des purs et durs. Ils ont l'écologie viscéralement chevillée au corps. Et ils voient loin. Ce sont des jeunes connectés sur Internet aux réalités du monde. Et je dois dire que même s'ils ressortent de toute leur cause qu'ils défendent un peu de cacophonie, Il y a quand même des vérités qui font surface, hein, déforestation, je sais pas, oppression de certains peuples, libéralisme à tout craint, libre-échangisme à tout craint, etc. C'est des choses que aujourd'hui nous en Europe nous commençons à voir et à souffrir d'eux, parce que ce sont des réalités qui nous impactent. Et voilà, ils ont un rôle un peu prophétique, les altermondialistes. Il faut les écouter. Hein, José Bové, on l'aime ou on l'aime pas, on est d'accord ou pas. Pour moi, c'est un prophète. C'est un type qui risque sa peau, sa vie, sa fortune, qui va en tôle et qui retourne en tôle sur le principe de précaution. Et aujourd'hui, alors, il le faisait bien avant qu'on sache toutes les ordures que Monsanto faisait et toutes les problématiques des OGM. Donc, les OGM peuvent être un bien, mais elles peuvent être aussi un mal. Tout ça va beaucoup trop vite, en fait. Tout va trop vite. Et ils apportent, en criant dans le désert, comme Job, la nécessité de l'étude et du principe de précaution. Oui.
Au-delà de l'altermondialisme, il y a l'écologie politique. Vous pensez que ça a un avenir ?
Que la politique s'écologise ou que l'écologie se politise, de toute façon, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, la survie de l'humanité en dépend. Donc aujourd'hui, tout le monde veut être écologiste en politique, et c'est très bien, mais les écologistes resteront toujours là pour veiller à ce que ça ne soit pas que des vœux pieux, et du greenwashing, comme on dit en anglais, du « je te lave plus vert pour surpasser la pilule ». Donc non, ils seront toujours dans le camp des opposants, pour moi, les écologistes, ils n'auront jamais... Mais il faut qu'ils fassent de l'entrisme et qu'ils soient dans tous les gouvernements possibles, dans toutes les parties. C'est quelque chose de transpartisan.
Alors, on va revenir à la marche. À un moment, vous dites que c'est avec ses pieds que l'on s'approprie le monde. Mais alors, à quoi on pense en marchant ?
On pense à ce qu'on voit et c'est alimenté par la marche et surtout le temps qu'on y passe. Comme le temps... La marche ne s'abrège pas. Elle ne s'écourte pas, elle ne s'évite pas. On doit passer par la marche si on veut marcher. Hein, sinon... Voilà, et donc il naît un rythme, une oxygénation, une lenteur, une scansion de la pensée. C'est pas pour rien que les péripatéticiens, les premiers philosophes, réfléchissaient et philosophaient en marchant. Pas les autres, évidemment. Pas la version féminine plus récente du péripatipate. Donc, voilà, la marche aide à réfléchir. C'est pour ça que je dis, c'est une formule, hein, on appréhende le monde en marchant mieux, ça aide à réfléchir, la marche, parce qu'on y consacre, on n'a rien d'autre à faire.
Parce que c'est une méditation aussi.
Ah, il y a une dimension méditative très importante. Oui.
Parce que vous abordez la marche spirituelle.
La marche, c'est un temps dévoué aux questions ultimes. Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que ma vie a un sens ? D'où vient l'humanité ? A-t-on un destin ? Les grandes révélations ? Ma religion, qu'est-ce que je crois en quoi finalement, est-ce que j'assume ce en quoi je crois, est-ce que ce que je crois c'est exactement ce que ma culture, mes parents ou mes lectures m'ont appris, ou alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie qui fait que mon point de vue est plus personnel. Je crois que la foi c'est quelque chose qui doit s'approprier un jour, on en hérite de par sa famille ou non. Et puis un jour, elle doit devenir personnelle ou non. Et parfois, des gens qui ne croient en rien, des mécréants, se cognent la tête à un pilier d'église et d'un seul coup ont la foi. Donc, c'est arrivé plus d'une fois dans l'histoire et des intellectuels aussi. Donc, moi, effectivement, je ne fais pas le distinguo entre la marche, mon désir de vouloir croire et d'aimer la création, d'aimer le Créateur. Et d'être chrétien et d'essayer de mettre en pratique le message du Christ et des évangiles qui sont le substrat et le cœur de notre culture. Et ça, je ne le renie pas, et je l'ai découvert en marchant. Alors c'est justement cette espèce de reniement collectif, pour moi infernal, de l'Europe à ne pas vouloir à reconnaître sa racine chrétienne, c'est à la fois suicidaire et freudien. Quoi. C'est vraiment un problème d'ordre psychanalytique grave. On ne peut pas grandir, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être épanoui, on ne peut pas s'adresser aux autres si on ne reconnaît pas nos racines chrétiennes, que l'on peut débattre, renier, ou contredire, ou approfondir. Mais on ne peut pas les renier, en tout cas. On ne peut pas les nier, et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas.
C'est peut-être pour ça que l'Europe est en déclin.
Pour moi, c'est une des raisons assurées. Il y a le ferment transnational et transculturel qui est le christianisme n'est plus là. Bon, et ce n'est pas l'économie de marché. On a vu ses limites, et on voit ses limites tous les jours. L'Europe ne nous protège absolument pas de l'invasion des autres produits et du dumping social que pratiquent les pays en développement. Non, il y a trop de libéralisme et pas assez de reconnaissance de ce qui nous unit.
Les 10 commandements du marcheur au long cours.
Oh, ben, c'est difficile, il faudrait que je les liste, je ne peux pas les improviser comme ça. C'est je sais pas, c'est un acte d'amour la marche. C'est un acte de foi, c'est un acte d'amour. C'est un acte de confiance, donc dans la confiance il y a la foi. Il y a une sorte de, c'est un acte de désintérêt. C'est sûr, on le fait pas pour gagner de l'argent ou pas par souci matérialiste. C'est un acte altruiste parce qu'on va voir les autres, on s'intéresse plutôt aux autres qu'à soi. Très vite la marche part du nombril vers son prochain. Et la marche est un acte spirituel, religieux, puisque d'une certaine façon, très rapidement, au-dessus de l'horizon, on regarde le ciel.
Effectivement, et dans toutes les civilisations, dans le ciel, il y a le sacré.
Il y a le sacré, et toutes les civilisations et toutes les cultures ont la notion et le concept de pèlerinage, de déplacement de soi, d'ascèse, de dépouillement, de lâcher prise, de faire le vide. Donc très vite, quand on marche dans les autres cultures, on voit une sorte de... On voit tous les points communs qu'il y a entre toutes les cultures et toutes les religions. On voit plus du tout les pierres d'achoppement. On voit au contraire cette fantastique dynamique en marche. Moi, Gandhi était un spécialiste du christianisme. Et d'ailleurs, il disait, mais si le christianisme était vraiment applicable, le monde deviendrait chrétien en 3 mois. Et donc, il trouvait que c'était le plus beau des modèles, mais il le trouvait trop idéaliste. Et il disait, il n'y a rien de plus beau que le christianisme. D'ailleurs, c'est tellement beau que si on devait le mettre en pratique, tout le monde entier deviendrait chrétien en 3 mois. Il n'avait pas tort. Dans l'hindouisme, moi, j'ai découvert énormément de violence. Et c'est justement dans le bouddhisme et dans l'hindouisme que ces religions sont apparues, dans ces cultures-là, pardon, dans le sous-continent indien, parce qu'il y avait beaucoup de violence et qu'il n'y avait que la non-violence pour contrer cette violence. Donc ça... Bon, c'est quelque chose qu'on a aussi dans notre culture, la non-violence. Jésus est le non-violent par excellence. voilà.
Bon, ça n'a pas toujours marché, mais tant pis. Entre l'Orient et l'Occident, la vraie différence, c'est le temps. Alors, comment vous l'utilisez, ce temps, quand vous êtes en Afrique, par exemple, ou ailleurs, et comment vous le percevez ?
Ah, il se trouve que je vis toujours en France, un peu comme je vivais en Afrique. Comme tout bon marcheur, je ne vois pas beaucoup plus loin que le bout de mes orteils. Et je vis toujours très au présent aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de mal à me projeter dans le futur, dans mon carnet, et à prendre des engagements à long terme. Et cette espèce de course de folie à se booker dans son agenda 3-4 semaines en avance. Et donc moi, je perds énormément de rendez-vous, je perds énormément d'opportunités parce que j'appelle les gens trop tard. Ils disent « Ah non, tout est plein, tout est pris. Ah non, je suis booké. » Quand je veux inviter des gens à dîner, c'est la catastrophe parce qu'ils sont déjà tous pris. Il faut les inviter en novembre. Là, on est en septembre. Il faut les inviter en novembre pour avoir la chance de les avoir chez soi. Donc on n'accepte plus chez nous que les gens qui fonctionnent comme nous, qui débarquent au petit bonheur la chance. Je me refuse à vouloir programmer tout si longtemps à l'avance pour vivre plus pleinement l'instant présent.
Nous écoutions Alexandre Poussin, auteur de « Marche avant et d'Afrique à Trek ».